Marco D'Amico Bello. Comment ça va, mon ami?
Pas mal, et toi?
Ça va très bien, merci. Écoute, toi, t'es entre deux vacances, là. Ça va bien? T'es correct? Continue de travailler? Ça lâche jamais, toi, là.
Non, puis c'est de bonne valeur. C'est le temps de l'année où tu fais beaucoup de pêche pour essayer de voir qu'est-ce que les DG font, qui fait quoi. Mais c'est un bon moment pour parler aux joueurs qui ont pris un recul puis essayer de voir comment ça va puis comment ils se préparent pour la saison.
Parlant de ça, RG Media, donc une plateforme dont tu fais fièrement partie, mon cher Marco. Vous avez parlé avec Jeff Gorton. Il y a une entrevue qui a été publiée. D'ailleurs, ça circule à gauche, à droite, des extraits de cette entrevue-là. Mais toi, tu voulais nous parler, parce que tu nous réserves tout le temps des exclusivités, là. Tu voulais nous parler de des trucs qui sont pas sortis encore de cet entretien-là.
Oui, mais dans le fond, on a parlé de Jeff Gorton primordialement sur le fait du fameux joueur top 6. Et Jeff Gorton, il disait que le marché en ce moment est assez calme. La grande majorité des DG ont fermé la shop pour une couple de semaines. Mais selon ce qu'il m'a dit, selon qu'est-ce qu'on a entendu de d'autres DG qu'on a passé en entrevue, vraiment, il y a plusieurs DG dans la Ligue nationale qui sont insatisfaits présentement des changements qu'ils ont faits ou qu'ils n'ont pas faits dans leur alignement et qui risquent d'avoir une certaine anxiété rendue en août, avant le camp d'entraînement, pour essayer de faire quelques transactions. On a vu le Canadien être agressif dans ce contexte-ci par le passé, les transactions Monahan, la transaction Hoffman-Petrie et la transaction Liney sont toutes parvenues plus tard dans l'été. Donc, le Canadien n'a jamais été une équipe qui baisse les bras une fois rendu au 3 ou 4 ou 7 juillet. Ça continue à travailler, mais c'est juste que les discussions en ce moment se passent pas. Par contre, il y a des clubs qui ont des situations à régler. Tu regardes des équipes comme Calgary. Tu regardes le Canadien de Montréal présentement au-dessus de la masse salariale. Donc, ils doivent faire une transaction pour descendre en dessous de la masse avant le début de la saison. Tu regardes aussi les Leafs de Toronto qui sont insatisfaits présentement avec leur alignement, qui cherchent activement à augmenter l'attaque de leur club, que ce soit des défenseurs à caractère offensif ou des attaquants. Donc, déjà plusieurs noms que j'ai nommés, mais ça rentre dans le contexte où il y a plusieurs équipes qui ont essayé de faire de quoi, qui s'attendaient à avoir plus de mouvements, qui s'attendaient à avoir plus de joueurs de disponibles. Et là, vu le marché et vu les joueurs qui sont disponibles, les prix sont connus et l'ego va faire en sorte qu'ils vont peut-être retourner pour ces conversations-là. Donc, c'est une des choses que Jeff Gorton nous a dit. Il s'attend à avoir étant ce marché secondaire qu'on reste de voir durant la fin de l'été.
Calgary, là, je pose la question de même, là, t'sais, juste comme ça. Là, mais c'est quoi leur besoin, eux autres?
Se rajeunir au plus vite. Je pense que c'est le mot d'ordre en ce moment. T'as vu Nick Kiprios parler du fait que Nazem Kadri figure parmi les rumeurs de transactions et les deux clubs.
Hey, ma question n'était aucunement liée à ça, Marco. Je sais pas pourquoi.
Non, je sais, mais c'est un exemple. C'est un exemple. Donc, on parle vraiment d'un gars comme Nazem Kadri.
C'est une joke, tu me vois pas, là, mais c'était complètement lié à ça. C'est pour ça que je te pose la question.
OK. OK, mais c'est une des choses que j'aime pas quand je fais de la radio de distance, c'est que je te vois pas. Je sais pas si c'est sarcastique ou non.
Je mettrai le zoom la prochaine fois. J'étais complètement sarcastique, mon chum.
OK. Mais tu sais, Calgary, eux autres, c'est exactement la chose. Tu regardes un gars comme Nazem Kadri, il y a une clause de non-mouvement complète. Mais il va avoir 35 ans au lever du rideau de la prochaine saison avec 4 ans encore à son contrat. Donc, il va avoir 38 ans à la conclusion de la dernière année de son contrat. Donc, vraiment un club qui va aller chercher un Kadri, s'il est vraiment disponible, c'est plus un club comme Toronto, dans mon estime, parce que c'est un club qui doit gagner maintenant ou vont probablement perdre Austin Matthews le moment venu de l'échéance de son contrat. Donc, c'est plus eux. Tu regardes un club comme Montréal, pas nécessairement, ça rentre pas dans ce qu'on a vu du Canadien de Montréal de se lancer dans un derby, même si c'est un très bon centre numéro 2, c'est juste le prix que ça va coûter pour aller chercher un joueur comme ça. Ça va quand même prendre plusieurs éléments et vraiment, il va être dans ce type de joueur-là qu'on voit peut-être pour un autre 2 ans. Et ensuite, tu vas payer le prix pour ce joueur-là. Et après ça, tu vas être pogné pour son contrat qui est de 7 millions de dollars pour les 4 prochaines années. C'est ce genre de move-là que je vois pas le Canadien regarder. Eux autres regardent plutôt des transactions pour des joueurs qui sont plus dans le groupe d'âge du noyau en ce moment, qui vont être capables de grandir avec le noyau et qui vont être capables d'apporter du succès soutenu et non simplement être bon pour une, deux ou gros max trois saisons avant que la pente descende. Je pense pas que c'est ce genre de game-là que le Canadien vont lancer. Et l'autre affaire que je dirais, c'est que la recherche pour un centre numéro 2 est tellement agressive en ce moment que les clubs qui sont pas, disons, sur la liste de Nazem Kadri à être échangés, même si c'est une clause non-mouvement complète, même les clubs qui n'intéressent pas Kadri, mais qui seraient intéressés à Kadri, se lanceraient de façon très agressive dans un derby si jamais ça a eu lieu. Donc, je pense pas que le Canadien pourrait se lancer là-dedans. Je pense que ça serait plutôt un joueur assez jeune qui pourrait être à Montréal pour les 5, 6, 7 prochaines années.
Donc, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, un joueur un peu plus âgé, mais un leader qui a déjà gagné la Coupe Stanley également. S'amener là, si on croit tant que ça que Michael Hage, quand la fenêtre va être vraiment ouverte, sera notre deuxième centre, je veux dire, ça va en prendre un qui va être ici pour 3 ans là, et qui va être capable de performer dans cet environnement-là. Alors, tu sais, bon, maintenant, mettons qu'il reste une autre année de contrat à 7 millions par année. Commence à être vieux dans sa dernière année de contrat. Il y a tout le temps de la gestion d'effectifs qui peut arriver à ce moment-là aussi, non?
Oui, c'est certain qu'un rachat d'un contrat comme ça aurait moins de problèmes pour le Canadien. Je pense que si tu regardes, mettons, un rachat d'un contrat de 7 millions la dernière année, je pense que c'est genre 2,333 millions pour les 2 années de pénalité de plus que tu dois payer.
Ce qui, dans 4 ans, sans masse salariale, sera rien.
C'est ça. Donc, c'est certain que c'est pas le fait que Kadri ait 35 ans et que son contrat est de 7 millions qui est le problème pour moi. C'est plus la guerre d'enchères qui va faire en sorte que ça va être problématique. Et le fait que je suis sûr que si tu es le Canadien de Montréal, tu veux apporter une solution à long terme. Si tu vas payer les atouts pour aller chercher un centre comme ça, c'est ça que je dis. C'est plus ça que je regarde dans cette situation-ci. Parce que le Canadien, à un moment donné, tu utilises tes choix, tu utilises tes jeunes pour aller chercher des éléments pour ton alignement. Mais quand ça va être le moment pour la grosse transaction, parce qu'il y en a toujours une grosse transaction avant vraiment qu'un club prend son push, tu vas pas avoir les atouts nécessaires. Tu n'auras plus les atouts que tu pourrais utiliser de façon plus relaxe pour aller chercher un joueur convoité. Tu vas devoir sacrifier des éléments qui vont peut-être être mal digérés par les partisans. Puis c'est plus ça que je vois pas le Canadien faire. Donc, c'est pour ça que je me dis, si tu vas te lancer dans un derby de même, vaut mieux se lancer dans un derby où ce que le joueur va être là pendant plusieurs années, comme on a vu avec Dobson, comme ils ont essayé de faire avec Kirby Dach et Alex Newhook, des jeunes qui vont être contrôlés ou des joueurs qui vont être capables d'en donner dans leur peak pendant 6, 7, 8 ans.
Comme un, tu sais, je nomme un nom au hasard, là. Comme un McTavish qui a toujours pas signé. Je dis ça de même.
Et voilà. Voilà. Écoute, je pense que les Canadiens vont plus se lancer dans ça que dans 4. Si j'ai à gager, ce serait plus.
Devine qui serait pas fâché. C'est moi.
Olivier? OK.
Olivier aussi, ça c'est certain. Hey, parle-moi donc de la liste de Scott Wheeler. T'as réagi comment par rapport à celle-là?
Ah, ben écoute. Avoir Ivan Demidov troisième, écoute. Il y a toujours une espèce de bias pour tout ce qui est récent. Donc, c'est certain que la QV 2025 va être plus en valeur, je dirais, que la QV 2024, même si on a vu cette QV comme étant un peu inférieure à celui de l'année passée. Wheeler avait Demidov deuxième sur sa liste l'année passée en termes de recrutement et le voit troisième. Je pense que, écoute, tu peux faire l'argument que Schaefer va être un défenseur numéro un de premier plan. pas nécessairement un moqueur en tant que tel, mais juste la coche en dessous. Et ça, ça vaut de l'or dans la Ligue nationale. Tu peux peut-être faire l'argument que Michael Misa pourrait devenir un centre numéro un de premier plan dans la Ligue nationale, puis ça aussi, ça vaut de l'or. Mais je crois que Ivan Demidov, je pense que c'est beaucoup plus proche que qu'est-ce que c'est avancé dans son texte. Mais on sait, d'ailleurs, on a discuté un peu par rapport à ça, moi puis lui, en DM, puis écoute, c'est un chic type, puis il dit, là, ils sont tellement proches les trois, c'est vraiment ce tiers-là, et ensuite, on commence à parler du prochain tiers, donc rendu là, c'est juste une belle discussion.
Pas pire, c'est un premier tiers à trois dans une liste de 100 joueurs, c'est quand même pas pire, ça se prend bien.
C'est excellent. Ben écoute, je pense qu'il n'y a personne qui va en pleurer à Montréal. Demidov est déjà un joueur de la Ligue nationale. Je pense que tout le monde le sait. Le monde se poserait peut-être la question avec Misa. On reste de voir qu'est-ce qui va se passer avec les Sharks de San Jose. Puis Schaefer, selon ce que j'entends, les chances sont bonnes qu'il va être parmi le roster de la journée d'ouverture. Donc, ça fait en sorte que ces trois-là sont à part. Mais moi, j'ai plutôt aimé ses commentaires par rapport à Michael Hage. Je pense que c'est là où je voulais peut-être regarder les choses. Il y a une très belle appréciation pour Michael Hage. Il irait même à dire que c'est un joueur hors de Montréal qui est même sous-estimé à cause qu'il jouait avec une équipe au Michigan qui n'était pas vraiment bien entourée. À la saison prochaine, ce club-là a gagné plusieurs éléments très importants qui vont pouvoir faire en sorte que c'est une équipe beaucoup plus compétitive. Et c'est là où on pourrait vraiment voir les qualités de passeur, de fabricant de jeu de Michael Hage pour vraiment qu'il prenne son élan offensif. Et il m'a dit la façon qu'il est capable de transporter la rondelle sans perdre aucune vitesse et aller directement au but et faire des jeux en plein mouvement, c'est une qualité de joueur élite de la Ligue nationale. Il ne dit pas que ça va être un marqueur de 100 points, mais il dit ça va être il voit un joueur top 6 en tout temps dans son potentiel. Et il dit s'il continue à faire qu'est-ce qu'il a à faire, il pourrait très bien l'être. Le seul vrai débat, c'est est-ce qu'il va jouer au centre ou est-ce qu'il va jouer à l'aile.
Écoute, pas un autre débat de centre ou d'aile.
On ça verra va toujours ça. Être un débat ça dans la Ligue nationale. On tant aussi longtemps ça. Que t'en as trop.
On verra ça quand il arrivera dans le show, Marco. Pour l'instant, exactement. On croit en son potentiel, puis laissons-le se développer, puis on a hâte de le voir avec les Canadiens. Merci Marco D'Amico.
Toujours un plaisir, mes amis.